9h14, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là, on est avec vous jusqu'à 10h, actuellement sur Québec. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. C'est pas le soleil qui va vous réchauffer aujourd'hui, bien au contraire. On parle d'une température ressentie cet après-midi encore plus froide que celle-ci actuellement. Donc, des températures à la baisse pour atteindre un genre de moins 10. Cet après-midi, avec le refroidissement éolien, ça va ressembler à un genre de moins 14. Fait qu'il va faire frais anti-pêché. J'ai sorti pour la première fois mon manteau d'hiver aujourd'hui. Ouais.
T'as bien fait.
Et oui.
Les bottes sont de mise aussi pour les petits orteils.
Je me suis endimanché, comme diraient les plus âgés.
Oh.
T'es-tu endimanché, toi, aujourd'hui?
Ah, oh, j'ai mis mon manteau et ma tuque.
Dégagé. Le ciel sera ce soir, Yoda. Minimum de moins 13 degrés. Pour ce qui est de demain mardi, ce sera nuageux avec une accumulation de 2 cm. Ciel dégagé en soirée, minimum de moins 13 degrés. Mercredi, milieu de la semaine, ben, ce sera un maximum de moins 7. Pour te joindre en studio, c'est le 88-971-101 si vous avez des choses à nous dire. Jeff, qu'est-ce qui se passe? On s'en vient-tu comme en Chine? Je ne sais pas si tu as vu la une du journal de Montréal d'aujourd'hui, mais la police de Montréal veut maintenant vous surveiller en temps réel avec l'intelligence artificielle. La police qui refuserait de divulguer le nom du logiciel qui a été payé 1,8 million pour les cinq prochaines années. Et de ce qu'on comprend, ça filme les visages de Rosaire puis Raymond. Et ben, ça se peut que si on te recherche, on tape Raymond. Tiens, Raymond, montre-moi donc sa face de détenu qui vient de sortir du centre de détention. OK, on le met là, on pèse sur « Enter ». Et
on va aller sur les caméras.
Et à un moment donné, Raymond va se promener sur Sainte-Catherine, exemple.
Puis là, ça va flasher.
Va être filmé. Raymond est là. Moi, ça me dérange pas tant.
Moi non plus.
J'ai rarement été recherché par la police.
Exactement. Moi, ça me dérange pas parce que...
Pour ne pas dire jamais.
C'est ça. Même si la police taperait mon nom, il n'y aurait pas d'intérêt après ça à faire une recherche.
Sauf que c'est une incursion dans notre vie privée.
Ben oui.
Jusque où ça peut aller? Si c'est pour de la recherche policière, ça me dérange pas tant.
Moi non plus.
Mais si c'est pour des questions d'ordre, exemple, tu dois 55 cents au ministère du Revenu, puis là, ils t'identifient, puis là, il y a des policiers qui viennent te voir. C'est fictif, là. C'est dans 50 ans, dans 100 ans. Mais tu veux-tu en arriver là?
Non. T'sais? Pire encore, un policier malveillant, une policière, m'a checké mon ex, il est ouf.
Ouais, ben ça, il y en a, là. T'sais, je te confirme qu'à chaque année, il y en a qui se font prendre. Il y a une interdiction, d'ailleurs, des policiers et des policières. Tous ceux qui ont accès, justement, à ce type de renseignements-là. Mm-hmm. Tu sais que toi, tu peux le faire, par exemple. Toi, tu peux prendre la date de naissance de n'importe qui avec son nom, puis tu t'en vas directement...
Au palais de justice.
Au palais de justice ou à la centrale de police qui est située dans le secteur Saint-Roch. C'est l'ancienne place où l'école bleue était.
Oui.
Ils ont fait un petit bureau satellite.
C'est vrai, ils ont fait un petit bureau de quartier.
De police, là.
Oui.
Puis quand j'avais été payer mon billet de stationnement là-bas, j'avais vu qu'il y avait 3 ordinateurs pour vérifier les antécédents. Puis, mettons que tu es une fille puis t'aimes les gars un peu plus rocker, c'est une bonne affaire de demander son nom puis sa date de naissance puis d'aller inscrire tout ça
voir
dans l'ordinateur pour connaître un peu son pedigree.
Tu veux sauver ton bum, mais tu te rends compte qu'il a fait 3 fois de la prison pour violence conjugale. Ça se peut que tu décides que tu ne le sauveras pas.
Donc, ce qu'on nous mentionne, c'est que l'ordinateur qu'on a acheté à Montréal pourrait supporter au minimum 700 utilisateurs en même temps pour ce qui est de la vidéosurveillance. Et c'est vraiment l'intelligence artificielle qui permettrait, exemple, dans le cas d'une personne recherchée, je ne sais pas moi, tu as de l'Alzheimer, Jeff, tu as 88 ans, tu t'es sauvé de ton CHSLD.
Ah, ça, c'est bon, par exemple, pour ça.
Tel Bruce Willis, tu t'es sauvé de ton CHSLD, ils mettent ton visage dans l'ordi, puis la police de Montréal, avec cet outil-là, pourrait te retrouver si tu passes sous leur caméra, exactement comme ça se passe en Chine. Sauf qu'en Chine, tu sais ce qu'ils font.
Qu'est-ce qu'ils font?
Ils t'offrent un bulletin citoyen. C'est comme ça aussi en Corée du Nord. Peut-être que notre invité, à qui on parlera dans les prochaines minutes, en sait plus sur ce sujet-là. Mais en Chine, tu as un bulletin citoyen. Fait que si tu es un bon citoyen, mettons que tu jettes rien à terre, si tu fumes une smoke puis tu ne jettes pas à terre, ça se peut que tu dois considérer comme un bon citoyen en Chine puis que tu aies des... T'as quelque chose de plus, que tu sois bonifié. Mais si t'es un mauvais citoyen en Chine, ça se peut que tu sois en prison, mais ça se peut que tu l'aies peut-être un peu plus difficile.
Donc, un bulletin de bons citoyens. Moi, j'aimerais pas ça qu'on en arrive là, par exemple.
Peut-être qu'un jour, ce sera ça. Mais sachez qu'à Montréal...
Mais je pense aux enfants aussi disparus. On pourra en retrouver.
Aux enfants disparus.
Tu sais, les fameuses adolescentes, là,
dans le cas d'un tireur actif. Je le sais pas, moi. Le tireur actif a des lunettes un peu louches. Il a une barbe taillée. Il a un genre de polo ou une chemise un peu louche. Donc, tu rentres tout ça dans l'ordinateur, puis tu peux le retrouver très rapidement. Ça, je trouve ça très efficace.
Tellement.
Mais on en est rendu là. Fait que ça a coûté 1,8 million à Montréal, ce logiciel-là. 700 personnes peuvent l'utiliser en même temps. Puis c'est pour retrouver des individus.
Bien, si ça peut retrouver des criminels et si ça peut retrouver des enfants ou des personnes aînées, comme tu le disais, perdues, here we go.
Combien de caméras à Montréal qui sont installées dans la ville?
Oh, ça, c'est une bonne question. Je te dirais 820.
OK. Moi, j'aurais dit 2-3 000, bien certain.
Ouais.
C'est pour une population de quoi? Mettons,
ouais,
sur
3 millions.
Sont 2 millions?
Ouais, 2 millions point quelque. Quand tu prends tout l'entourage de Montréal, on parle d'une région de 3 millions.
À l'heure actuelle, le SPVM aurait 46 caméras installées dans la ville.
C'est pas beaucoup.
Ici, à Québec, il y en a quelques-unes pour les entrées et les sorties de la ville.
Ouais.
T'en as au nord, t'en as au sud, t'en as à l'est, puis t'en as à l'ouest. Fait que vos plaques d'immatriculation sont tout le temps vues. Est-ce qu'ils sont tout le temps marqués dans l'ordinateur? La réponse, c'est non. Mais vos plaques d'immatriculation, c'est assez facile de les avoir. Là.
Hey, c'est donc bien pas beaucoup.
Fait que si tu veux tuer quelqu'un, prends pas ton char, prends pas ton cellulaire.
En effet.
Puis mets-toi ton masque là, que tu utilisais pendant le temps de la COVID.
Hey, puis là, je vais passer incognito.
Exact.
Je vais pouvoir franchir la frontière, aller refaire ma vie au Bahamas.
Ouais, monsieur. Notre invité est en studio. Tellement content de jaser chaque semaine. C'est David Chabot, notre chroniqueur international. Comment ça va?
Ça va, toi?
Ben oui, content de te jaser. T'avais-tu déjà entendu parler du fameux bulletin citoyen?
Ben oui. Puis là, c'est la grande crainte de bien des gens qu'on tombe dans un système de crédit social dans lequel tu dois avoir un comportement irréprochable, sans quoi tu n'auras pas accès à du crédit, à une hypothèque, bon, tout ce qui vient avec.
Ça va aussi loin que ça.
La radio conspire.
Il y avait même Black Mirror, la série là, incroyable sur Netflix qui avait fait ça.
Oui.
Donc, tu sais, logiquement, ça se peut. Est-ce que c'est probable? Peut-être qu'en Chine, ça peut l'être un peu plus, là, mais ici, j'y crois pas.
Ce qui m'agace, c'est qu'à chaque fois qu'ils réussissent à avancer un petit peu plus dans notre vie privée, je me dis tout le temps, c'est comme manger un éléphant. Tu regardes l'éléphant, c'est impossible à manger un éléphant. Mais si tu y vas à petite cuillère, c'est toujours moins pire.
Mm-hmm.
Tu sais, tu le mets dans l'assiette, la petite
cuillère. Mais t'as raison.
Moins pire. Fait que plus il rentre dans notre vie privée, plus on va le laisser rentrer dans notre vie privée.
J'ai déjà vu une conférence du psychologue sportif d'Alexandre Despatie, puis c'est comme ça. À 13 ans, Despatie voulait gagner une médaille d'or. Mais pas de trouble, man. Mais voici le chemin. Puis le chemin, c'est un éléphant. Puis il l'avait divisé en plein de quartiers. Puis on prend le premier bouchon, on prend le deuxième, on prend le troisième. Puis
je pensais que c'était moi qui avais trouvé ça
tout seul. On s'en va de même. mais tout ça pour dire que je comprends maintenant, par exemple, mes excuses à Magali Picard. Je comprends pourquoi elle nous a comparé à la Russie. Il y a moins de système qu'on a à Montréal.
Oui, exact. Mais imagine, là, recule pas de si longtemps que ça dans notre histoire. Là, mettons, aux années 80, là, tu pouvais partir avec ton auto puis être impossible à rejoindre. Puis
c'est vrai.
Star, c'est pas une réalité qu'on connaît. Là.
C'est vrai, tu te souviens-toi de la poursuite d'O.J. Simpson avec l'hélicoptère. Mmh.
Mais ta voiture est connectée, ton cellulaire est connecté, ta montre est connectée.
Ouais.
Ton cellulaire, là, tu sais, dans le cas de Cédrica Provencher, on en avait parlé il y a de ça quelques mois, les policiers avaient fait de la triangulation.
Mmh.
Fait qu'ils avaient pris le cellulaire d'un individu, puis il avait rentré son numéro de téléphone, puis son compte client, puis il avait regardé le ping était à combien de millisecondes. Je pense que c'est des millisecondes là, de mémoire. Puis plus tu es proche de l'antenne, plus ils sont capables de dire « OK, il est à peu près là ». Parce que l'autre antenne, il est à 4 millisecondes. Fait qu'ils sont capables d'évaluer exactement par la triangulation où est-ce qu'il était ce soir-là quand on recherchait Cédrica Provencher. C'est capoté, là.
Ben oui.
Fait que là, le crime parfait, à un moment donné, il va être impossible à faire. Là. Moi, ça fait mon affaire. Là. J'ai pas l'intention de faire des crimes. Mais pour les gens qui sont, exemple, travaillent pour la mafia, puis que leur job, eux autres, c'est de tuer du monde, ça va être rendu impossible tantôt.
Mm-hmm.
Parce qu'ils vont être capables de te suivre partout.
Pas de mauvaise affaire tant que ça.
Ben non.
Mais il y a toute la grande discussion sur la liberté individuelle autour de ça.
Mais le jour où t'es considéré comme un ennemi de l'État, puis t'en es pas un...
C'est ça.
Ils peuvent te bloquer partout à distance.
Ben oui, c'est ça le problème.
Fait que voilà, on est rendu dans un autre film. On est rendu Radio Conspi.
Je suis content de faire partie de ça, les gars.
Oui, monsieur, on fait encore exploser des bateaux. Puis je parlais avec Frédéric Bérard, je pense que c'est vendredi ou jeudi, puis il parlait du gouvernement de Donald Trump en disant que c'était un gouvernement de fasciste. Est-ce que c'est du fascisme que de faire exploser des bateaux qui partent du Venezuela puis qui s'en viennent vers les États-Unis avec, semblerait-il, une grosse cargaison de drogue? Moi, je t'ai donné un peu mon avis là-dessus. Là. T'sais, moi, je m'attends à ce que ce bateau-là soit intercepté. Qu'on soit capable d'identifier tous les individus qui sont sur ce bateau-là, puis que ces individus-là passent en cours, puis obtiennent une sentence par rapport à ce qu'ils voulaient faire, puis la drogue qu'il y avait à l'intérieur. Je pense toujours au pauvre capitaine de bateau qui, lui, ben, devait pêcher chaque jour. Puis à un moment donné, ben, il y a des gars qui ont dit « Toi, du jour au lendemain, tu seras plus pêcheur. Tu vas nous amener aux États-Unis. » Lui, là, c'est un missile qui arrive directement à sa tête. Puis il n'a pas la chance d'expliquer ça au juge. Je trouve que c'est une façon de faire qui nuit un peu à l'image des États-Unis.
Ah, big time, là. Puis, tu sais, il y a même eu un cas où il y a eu une deuxième frappe, là. Là, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont frappé le bateau une première fois. Il y a eu deux survivants. Se sont accrochés à la coque. Puis là, ben, la directive interne, apparemment, là, évidemment, tout ça, c'est des oui-dire de Pete Hogsett, là, le secrétaire à la guerre maintenant. Là, c'est plus le secrétaire de la défense, c'est le secrétaire de la guerre. Aurait été de dire pas de. Sans quartier, là. Donc, pas d'otages, pas rien de ça. On attaque, puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui respire. Donc là, évidemment, c'est contraire à tout ce qui est dans le droit international.
Mais est-ce que tu considérais ça comme du fascisme?
Bien, ça, c'est une grande question, OK? Parce que tu n'auras jamais une définition parfaite du fascisme avec un gouvernement ou un autre. Il y a tout le temps des petites nuances, il y a un petit peu plus, un petit peu moins.
Parce que je trouve que l'exercice est dissuasif, là.
Bien,
si vous vous approchez de nous autres, puis on pense qu'il y a de la dope, vous n'aurez pas de procès, on va vous faire exploser.
Oui, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est dissuasif, mais tu veux-tu vivre dans une démocratie comme ça? La réponse, c'est non.
Bien, je ne pense pas. Puis, tu sais, la question du fascisme, il y a plein de grands. Il y a des grands morceaux pareils. T'sais, est-ce que tu utilises l'armée à des fins nationalistes? On peut peut-être dire que oui, là, t'sais, la garde nationale dans les rues, dans les frontières, dans les attaques à d'autres pays. Bon, il y a d'autres gouvernements qui l'ont déjà fait. Le culte de la personnalité, ça, on s'attaque à tous les jours, c'est un peu pire, là. L'espèce de. Ben justement, le nationalisme identitaire. T'sais, nous, on est mieux que les autres. Ben, y a beaucoup de ça aux États-Unis en ce moment, là. Puis une volonté de conquête ou d'agrandir le pays, ben. C'est discutable. On peut se parler justement du Venezuela. Je ne pense pas que les États-Unis ont des visées de conquérir d'autres pays pour devenir comme plus grands.
Non, mais ils ont des visées de conquérir des matières premières.
Oui, mais ça, oui, par exemple. Là, ben, ce bout-là, c'est là que c'est un peu plus flou parce que tous les pays le font. La Chine le fait différemment. Évidemment, ils n'attaquent pas des bateaux au Venezuela, mais on est toujours autour du même concept. Fait que, est-ce que le gouvernement Trump est fasciste? Il y en a certains comme M. Bérard qui vont dire oui, et plus que oui encore, mais il y en a d'autres qui vont dire, ben, écoute, il y a des nuances. Moi, j'en suis de ceux-là. Mais
parce qu'à partir du moment
plus.
Où tu utilises tout le temps ce mot-là, pour les gens, ça ne voudra plus rien dire, ce que c'est le fascisme.
Ben, en fait. Les gens dans leur tête, le fascisme, c'est Hitler.
Exact.
Puis les gens se disent, Trump n'est pas Hitler. Puis, tu sais, je veux dire, jusqu'à un certain point, on peut
puis
dire que c'est
le gouvernement de François Legault, contrairement à ce que Magali Picard peut penser, n'est pas comparable à celui de la Russie. Là.
Non.
Donc, quand des gens utilisent des mots qui n'ont pas de Christi de bon sens, tu perds le mot. C'est comme si le mot ne voulait plus à rien dire. Puis dans le cas du fascisme, ben c'est pas ce que Trump est en train de faire là. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est nuire à l'image de la démocratie, nuire à l'image de la fameuse balance de justice. Là. Tout le monde aux États-Unis a le droit à la justice équitable, même affaire pour ce qui est du Canada. Puis je me serais attendu à ce que le gouvernement des États-Unis fasse un peu la même chose. Il y en a qui vont dire « Yann, tu rêves, parce que les États-Unis outre-mer en ont fait des vertes et des pommes. » C'est correct. Mais ce qu'ils font là, c'est pas, à mes yeux, à moi, c'est pas du fascisme.
Non, c'est de l'intervention musclée, on va dire comme ça, qui est certainement illégale au sens de la loi internationale. Mais comme tu le dis, ils le font tous. Moi, ce qui me marque un peu avec l'histoire du Venezuela, c'est qu'on s'apprête, si vraiment Trump pèse sur le piton, là, à faire exactement ce que Poutine a fait en Ukraine. C'est-à-dire vouloir un changement de régime dans un pays qui est supposément souverain par la force. Soit par une invasion ou autre moyen. Là, on pourrait discuter de comment
ils vont le faire. Que là, on bloque l'espace aérien.
Ben, c'est une bonne question parce qu'il l'a annoncé, mais là, sur le terrain, il y a encore des avions qui volent. Fait que là, comment ça va s'articuler? Mais il l'a annoncé pareil. Mm-hmm. Il a dit « no fly zone au-dessus du Venezuela ». Fait que ça fait mal à l'économie terrible. Ça veut dire que les politiciens peuvent plus s'enfuir, ou en tout cas, à moins de passer par un autre pays. Là, il y a un méga porte-avions pas loin de là. Juste un porte-avions, c'est assez pour mettre le Venezuela à terre, là, okay. par ailleurs. Là.
Mais tu sais, sur son réseau de Truth Social, il a dit à toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme entièrement fermé. Il va-tu faire exploser des avions?
Ben, tu sais, C'est tout le temps la même. Tu sais, la fameuse ligne dans le sable, là. Tu sais, je veux dire, il y a un 737 qui décolle de Caracas, là, puis là, tu le snipes, puis c'est tous des civils. Ça se peut pas, là. Je veux dire, tu peux pas faire ça, là, à un moment donné, là. Mais il va se donner le droit, probablement, d'aller chercher des Cessna, puis des Piper, puis des petits avions comme ça qui transportent la drogue à basse altitude. Peut-être qu'il se donne le droit de le faire autant qu'il le fait avec les bateaux. C'est un peu ça, je pense, le principe. Maintenant, où il veut s'en aller avec le Venezuela, on s'en est parlé dans les dernières semaines, là. Plus ça va, plus c'est clair qu'il veut un changement de régime. Donc, il veut sortir Maduro, puis avoir quelqu'un qui est beaucoup plus favorable envers les États-Unis. Qui va prendre cette place-là? Ben, Trump est très proche de Maria Corina Machado, là. Machado, c'est pas un drink au Starbucks, là. C'est une femme qui est quand même d'envergure politique. On l'aime ou on l'aime pas. Et...
Mais elle est en exil.
Oui. Puis, tu sais, il y a eu même des lois qui ont été passées contre elle au Venezuela pour pas qu'elle ait de place politique. Mais c'est pas mal la plus proche, dans le fond, de Trump et favorable à lui. Puis bon, fait que si tu veux vraiment faire un changement de régime, Mme Machado, ça pourrait être un bon pic. Mais ça implique que là, tu mets beaucoup, beaucoup de morceaux de la société civile à terre, puis tu repars quasiment à neuf sur un autre nom, là. Mais c'est probablement la candidate la plus probable, parce qu'il y en a d'autres, mais...
C'est elle qui a gagné le Nobel.
Elle a-tu gagné le Nobel? Oui.
C'est elle qui a gagné le Nobel.
Ouais, t'as raison. Puis Trump l'avait reçu à la Maison-Blanche.
Puis elle avait dit qu'elle avait donné une partie de son prix à Donald Trump.
C'est ça. Il l'avait pas reçu, mais il avait... Ce bout-là, c'est vrai, j'aurais dû lire là-dessus avant d'arriver, mais oui, effectivement, il sait que c'est passé. Fait que là, tu sais, tout est dans tout. Là, elle va favoriser le fait que Nobel, que Trump ait son Nobel de la paix aussi, là. Mais
on dirait que tout est organisé d'avance, Jeff.
Mais c'est un gouvernement qui est tellement transparent, celui de Trump, là. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas de cachette, là. Ils te le disent, on va faire ça, puis ils font ça.
Ils vont.
Tu sais, puis ils sont pas gênés, là. Ils ont aucune gêne par rapport à ce qu'ils font. Leur ligne d'attaque est très, très transparente, puis il y a beaucoup de favoritisme, de népotisme, puis tous les ismes que tu peux sortir, là. Mais on dirait que c'est pas grave, parce que, tu sais, l'Amérique devient plus grande à tous les jours, là. Donc là, si on revient au Venezuela, comment ça peut se passer, comment ça peut s'articuler? Ben, forcément, l'utilisation de l'armée américaine, ça va prendre 22 secondes, ça va être réglé, parce que je regardais avant d'arriver l'armée vénézuélienne. C'est pas fort, là. Je pense que même on peut dire que le Canada est plus fort que le Venezuela, là. C'est pas rien, quand même. Non, je veux pas insulter...
On est fort, le Canada.
Nos amis militaires, on veut pas les insulter, mais... tu sais, c'est une gang de semi-formés qui sont payés genre 100$ par mois, là, ce qui est comme... C'est 400$ de moins que ce que ça prend pour vivre au Venezuela de base. Fait que tu comprends que c'est une armée qui est fortement corrompue, parce que là, les soldats moyens, ben, ils vont chercher des façons d'arrondir les fins de mois. Puis on s'attend à ce qu'ils droppent les armes puis qu'ils partent à la course dès que ça commence à chauffer un peu. Il y a déjà de la désertion qui est constatée dans l'armée en ce moment au Venezuela, puis il y a juste une menace, là. Il n'y a même pas d'action militaire directe. Donc, demain matin, Trump, il disait, hey, je t'en ai, là, on pèse sur start, là. D'abord, Caracas, c'est très, très proche des côtes, là, fait que là, envahir la capitale, ça prendrait très peu de ressources pour le faire. Mais on revient toujours à la même question qu'on a eue ensemble. On l'a fait en Irak, on l'a fait en Afghanistan, ça a mal viré, puis même à une certaine limite, le Vietnam du Sud dans le temps. Là, tu rentres, puis tu fais le ménage facile. Après ça, tu fais quoi? Puis là, ben, avoir un gouvernement imposé, sans élection ou avec des élections un peu trafiquées, un peu ce que Vladimir Poutine veut faire en Ukraine après la guerre, ben, c'est jamais légitime. Fait que tu vas gagner du temps un peu, mais tu vas retrouver la même situation, par exemple, qu'en Iran, quand le Shah d'Iran s'est fait sortir à grand coup de pied dans le cul.
OK. Mais je te repose la question. Là, on est en train de faire péter à distance des bateaux qui partent du Venezuela puis qui s'en vont, qui seraient en destination des États-Unis. Est-ce que c'est vraiment ça l'histoire? On ne sait pas. Mais on les fait péter à distance. Là, Trump, sur Truth Social, dit... si vous survolez le Venezuela, dites-vous que c'est fermé. Là. Mm. Vous n'avez pas le droit d'être là. Il va-tu les faire péter dans les airs?
Ben, comme je te disais tantôt, je pense pas qu'un 737 de civils va exploser. Je pense pas. Mais juste la menace est suffisante pour que les compagnies aériennes arrêtent d'y aller. Là. Mais ils se donnent la légitimité d'attaquer des petits avions de transport qui sont vraiment plus difficiles à détecter, mais que tu envoies un missile et c'est réglé.
Tu parlais Irak, Afghanistan. Est-ce qu'il y a des forces terroristes au Venezuela ou c'est moindre que dans les États islamiques?
Ben, qu'est-ce que le terrorisme, là? Mais, ouais,
il y a des gangs organisés, du crime organisé, certains.
Ouais. C'est ça. L'ouest du pays, là, l'ouest du Venezuela, n'est plus vénézuélien. Là. Il est comme au moins des cartels. Puis, tu sais, on est très proche du trafic de la Colombie puis tout ça. Là, fait que... c'est pas tout le pays qui est vraiment contrôlé par le gouvernement. Du terrorisme, ben, tu sais, je veux dire, la filière terroriste vénézuélienne n'existe pas vraiment à l'international pour l'instant. Est-ce que ça peut se développer avec le temps? Probablement localement, avoir une stratégie de guérilla. Puis c'est d'ailleurs une des choses que Maduro a dit. Si on se fait envahir, nous autres, on va être la guérilla à grandeur. Puis...
Ouais, parce que je te posais la question justement pour c'est quoi le risque des Américains de mettre le pied là, tu sais, au Vietnam, ils se sont retrouvés en terrain complètement miné. Ouais. Puis t'es ben avec Afghanistan et Irak, il y avait à combattre là, des franges très bien formées, très bien armées. Là, donc,
ben,
je me demandais s'il y avait ces impacts-là autant au niveau du terrain que des gens là, qui se sont mobilisés pour combattre là, les Américains.
C'est sûr que ça peut arriver, okay? Parce que en plus, le pays n'est pas facile à naviguer. Là, je veux dire, c'est la jungle, puis il y a beaucoup de montagnes, puis tout ça. Mais ça dépend c'est quoi tes objectifs, parce que si t'envahis puis tu veux contrôler, c'est sûr que ça va être le bordel, parce que là, l'Amérique du Sud va probablement se fédérer contre l'envahisseur américain. Là,
c'est clair.
Surtout pour les groupes armés, les milices. Là. Donc oui, ça peut arriver, mais je ne pense pas que les États-Unis veulent aller là. Je pense qu'ils veulent juste tellement augmenter la pression que Maduro, à l'interne, va perdre tous ses appuis et va être obligé de partir ailleurs.
Parce qu'il a quand même été élu en 2024, Maduro, mais serré à 52%, puis ça a été un résultat là, qui avait été contesté, là, si je me souviens bien, par plusieurs pays. Là.
Ben oui, c'est ça. Fait que là, on peut pas dire que c'est un leader extrêmement populaire. Il y a eu quand même un vote majoritaire. Est-ce que c'est un vrai vote légitime ou pas? On se pose toujours la question dans ces pays-là, mais si on présume que oui, il y a eu l'appui suffisant de la population pour être en pouvoir, mais il y a eu beaucoup de cracks dans l'espèce de grande armure socialiste au Venezuela. Hugo Chavez, qui est mort dans des circonstances qu'on ne saura jamais vraiment, s'est-tu fait empoisonner par la CIA ou pas? Il y a tout le temps des histoires en Amérique du Sud. Mais lui, il était beaucoup plus fort. Sa réputation était beaucoup plus forte au Venezuela. Il a un peu craché le pays avec le pétrole, puis bon, il a mal géré l'économie. Là, Maduro est rentré, puis quand il est arrivé, je me souviens que c'était vraiment très... c'était dit comme un modéré, tu sais, c'était comme une espèce d'internationaliste, puis tout ça. Finalement, ça s'est pas vraiment avéré, mais depuis ce temps-là, l'économie chancelante pas mal. Donc là, on est un peu à la même place, et peut-être
le tourisme est à zéro, là. Je pense que c'est dans les années 80, les gens allaient, c'était une destination solaire, le Venezuela, c'est dans les Caraïbes, là, c'était de toute beauté.
Ben, on devrait aller là pour aller relaxer sur le bord de la côte, là, parce que c'est imprenable.
Je pense qu'il y a 4000 îles au total autour du Venezuela, c'est exceptionnel. Là.
Ça se peut, ça. J'ai pas eu ce cours de géographie-là, mais ton infinie sagesse me l'apprend.
Faut pas trop j'en sorte des affaires de même. Hey, qu'est-ce qui arrive avec le fameux plan de paix là, entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie?
Ben, ce qui arrive, c'est qu'il arrive pas. Okay? Donc là, évidemment, c'est des discussions très, très contemporaines. Au départ, on se parlait des 28 points la semaine passée. C'était le chiffre magique. Là, l'Europe a donné ses 28 points. Là, l'Europe a parlé avec les États-Unis, qui ont parlé avec l'Ukraine. Là, les États-Unis et l'Ukraine parlent ensemble. Tout ce monde-là se brasse, là. Ça se jase. Là,
mais... Puis là, Zelensky est avec Macron aujourd'hui.
Oui. Fait que, puis il va aller en Irlande, je pense, demain, qui n'a jamais appuyé directement l'Ukraine là-dedans. Mais là-dedans, le grand absent, c'est Vladimir Poutine. Puis moi, je suis convaincu que tout ça va se faire, puis ils vont déposer le plan de paix en disant « Tiens, on a travaillé fort, on s'est jasé, on a trouvé des solutions. » Puis Poutine va dire « Ça m'intéresse pas, votre histoire. »
Lui, il va dire oui ou non.
Oui, parce que lui, ce qu'il veut, c'est renverser le gouvernement Zelensky, prendre le contrôle de l'Ukraine, puis avoir un pays tampon, on le dit depuis le début. Puis sa position n'a pas changé, puis lui-même n'affirme rien par rapport à ça. Il parle très peu de la guerre directement aussi. Mm-hmm. Cette fameuse opération spéciale qui n'est plus vraiment une opération ni spéciale. Mais dans tous les cas, ils ne se prononcent pas là-dessus. Donc là, c'est des échos de diplomates, c'est des sources non identifiées. Ils font ce qu'ils peuvent. Les Hills, c'est les journalistes, là, puis les diplomates pour essayer de sortir de l'information. Mais ce qu'on en comprend, c'est que la position est toujours la même. C'est très ferme. C'est de dire, on veut, entre parenthèses, dénazifier l'Ukraine, prendre le contrôle du pays, puis faire un changement de régime. Donc là, on arrive avec nos 28 points. Puis il y a des grosses concessions là-dedans. Là. Puis ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que quand tu fais pas une négociation avec la partie opposée, mais tu la fais juste avec toi puis c'est public, ben là, tu viens d'admettre c'est toutes les concessions que tu veux faire. Donc là, après ça, quand l'autre partie, donc la Russie ici, va dire qu'elle veut négocier, ben son point de départ, ce sera pas tes positions du début,
non.
C'est tes positions de la fin.
En effet, donc il y a un avantage qui a été créé là.
Puis c'est complètement absurde, tu sais, mais là, il y a beaucoup de gens qui disent que les États-Unis sont beaucoup trop proches de la Russie dans leur position. Il y a des choses qui, tu sais, c'est quoi son nom? Witkoff, je pense, son nom, là, qui est très, très proche, apparemment, de la Russie. Il les a conseillés sur comment négocier avec Donald Trump. Donc là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont inconfortables là-dedans. Puis moi, je pense que ce qui peut finir par se produire, c'est une paix imposée. Donc là, l'Ukraine n'aura pas le choix parce qu'ils vont se faire dire, si tu fais pas la paix, tu n'as plus d'appui de personne, puis là, tu te retrouves tout seul à essayer de runner une guerre que tu n'as pas les moyens de faire. Puis c'est drôle parce que je suis en train de... Ben, c'est drôle, c'est pas drôle, mais je suis en train de lire la grande biographie, mettons, du Troisième Reich, là, qui s'appelle The Rise and Fall of the Third Reich. J'ai repris ça hier, puis là, je suis dans la période de l'armistice de 1918, excuse-moi, où l'Allemagne s'est fait imposer plein de conditions, des cessions de terrain, des remboursements de dettes. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que l'Ukraine se fait dire. Tu sais, cède du terrain, là, c'est pas vraiment payer une réparation, mais cède-nous une partie de l'exploitation de tes ressources naturelles.
Ça, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale.
Oui, mais les conditions sont similaires.
Oui, Hitler avait été soldat à l'époque.
Oui, il était infirmier, si je ne me trompe pas.
Puis après ça, il a demandé pour rentrer aux Beaux-Arts, pas été accepté.
C'était avant la guerre.
C'était avant la première?
Oui.
Okay. Je pensais que c'était entre la première et la deuxième.
Non, entre la première et la deuxième, en fait, il a fait le beer hall push. Là, donc, le push dans un hall de bière. Là, c'est quand même mal traduit, mon histoire. Donc, il s'est mobilisé. Là, il avait vraiment un terreau fertile pour ça. Mais avant la guerre, il voulait être artiste. Puis là, il était à Vienne. Puis là, ben, il avait pas une scène dans les poches.
Imagines-tu le changement drastique d'histoire?
Ben oui.
Le gars, il rentre aux Beaux-Arts. On n'entend pas parler.
Les Européens... pourrait-il se mobiliser sans les Américains puis dire on n'en veut pas de ce plan de paix-là? Ça n'a pas l'air parti pour ça, là, mais ça, est-ce que c'est une possibilité qui peut arriver compte tenu que céder du territoire à Poutine, c'est s'ouvrir à une autre guerre à un moment donné à l'interne?
Ils ont pleinement l'autorité de le faire. Ils peuvent le faire. L'Union européenne peut agir, peut dire que nous, on va fournir en armes l'Ukraine pour le restant de la guerre, on va amener une nouvelle stratégie à la limite, on va envoyer des troupes, tu sais, tout est possible dans la vie, là. Mais le gros risque, c'est de se désaligner avec le grand allié de l'OTAN qui est les États-Unis. Puis si tu vas froisser Donald Trump en disant « moi, on va le faire sans toi, retourne chez vous avec ton petit bonheur », ben là, il peut bien dire « ok, parfait, mais l'OTAN, c'est juste vous autres maintenant, puis je suis plus là-dedans, puis là, oups, ça vient de changer, pas pire, là. »
Ben, le rapport de force vient de changer, là.
Ouais, puis tu sais, on voit là, que l'Union européenne, en tout cas, on peut présumer que s'il y avait une guerre ouverte là, non nucléaire entre l'Union européenne et la Russie, je pense que l'Union européenne gagnerait assez facilement. Mais c'est un risque que tu veux pas prendre. T'sais. Puis la dissuasion d'avoir les États-Unis en arrière de toi avec des dizaines de milliers d'ogives nucléaires et toute l'armée qui vient avec. T'sais, rappelons-nous que le budget de l'armée américaine, c'est plus gros que tout le monde, tous les 15 prochains, je pense, combinés ensemble. C'est complètement déraisonnable. Fait que cette force-là, là, si tu perds ça comme appui, t'es dans le trouble.
Ouais, je comprends. Donc, c'est vraiment cet appui-là des États-Unis qui fait pencher la balance. Parce que je les trouve soft, les Européens, là-dedans. T'sais, ça a toujours été dicté par les Américains. Puis là, que ce soit Biden qui avait justement sa façon de faire à Trump, là, c'est toujours les Américains qui ont dicté le conflit entre l'Ukraine et la Russie, là, à tout le moins la réplique.
Ben, dans la dernière année, l'Europe a pris beaucoup plus de place. Ils ont essayé ils ont envoyé plus d'armement, premièrement. Puis, tu sais, Macron a été très vocal sur « Non, mais il faut défendre l'Ukraine, puis c'est une guerre européenne, puis tout ça. » Parce que je pense que s'il n'avait pas fait ça, Trump aurait imposé des conditions encore pires qu'il a faites maintenant, tu sais. Mais effectivement, que sans les États-Unis, l'Europe n'est rien, là. Fait que, ils n'ont pas le choix de suivre la danse un peu, là.
Dans 10 ans, est-ce que les États-Unis se mêlent encore des autres conflits dans le monde?
Ben, j'aime pas la réponse que je vais te donner, mais j'ai le goût de te dire qu'ils n'ont pas le choix. Parce que la Chine prend tellement de place, puis l'Iran, pas l'Iran, l'Inde n'a pas commencé à jouer à ça encore, mais ça s'en vient bientôt. T'sais, la Russie va continuer à être déstabilisante. Ouais. L'Iran va continuer à essayer d'avoir l'influence beaucoup par le terrorisme. T'sais, y a
la
tellement...
Russie a tiré des liens avec la Corée du Nord. Ouais. T'sais, des liens avec la Corée du Nord, non.
Donc, mais l'Europe a toujours besoin des États-Unis, peu importe ce qui se passe comme conflit sur le continent.
Ben, besoin. Je veux dire, on claque des doigts, puis cette alliance historique-là n'existe plus. Ben, ils peuvent sûrement se débrouiller. L'Allemagne, ça reste quand même une puissance économique, puis ils ont une grande armée, puis tout ça. Donc, ils pourraient se dépanner. Mais le rapport des forces, dans le fond, ce que tu veux, c'est que, comme États-Unis, c'est d'avoir tellement d'influence que ça va t'avantager d'un point de vue économique ou géopolitique. Donc là, tu veux te mêler du trouble parce que tu veux avoir la liberté de dicter la solution.
Ouais. Puis encore, corrige-moi si je me trompe, puis on le sent peut-être un peu moins avec Donald Trump, mais il y a encore cette idéologie-là aussi de défendre les systèmes démocratiques.
Ben oui, oui, mais...
Là, c'est moins avec Trump, là, mais je veux dire, t'es derrière les interventions des États-Unis à travers le temps, oui, il y a toujours eu de la ressource naturelle puis de la prise de contrôle, mais il y a aussi la démocratie, là.
Oui, puis c'est vrai que ça s'est érodé avec le temps, puis je trouve que c'est un des vecteurs d'affaiblissement des États-Unis à travers le monde, parce que quand tu vas renier, par exemple, des institutions par rapport aux droits humains, le tribunal international de justice, puis tout ça, t'érodes un peu ton image de grand arbitre, si on veut, international, puis quand t'interviens plus justement pour essayer de maintenir la démocratie puis le libéralisme ailleurs, ben ça finit que là, des pays comme la Chine, qui sont très autoritaires puis qui s'en foutent un peu de la démocratie, influencent beaucoup au début des petits pays, puis après ça, oups, ça devient des pays moyens, puis là, t'as beaucoup d'influence en Afrique, il y a beaucoup de ressources là-bas, puis ça finit que remettre la porte à dents dans le tube, c'est pratiquement impossible.
En effet.
Donc, ils ont perdu une opportunité.
David Jabot, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un super de beau 1er décembre. M'as-tu acheté mon cadeau de Noël déjà ou ça va venir?
Ah, mais j'y pense encore. Je sais pas quelle couleur de bobette je veux t'offrir.
Un moment. Ça me prend un moment.
Un moment?
Ouais, prendre une bière avec toi, là, quelque part. Ah, avec toute l'équipe, là. Jeff ben va être là. Là, on va être obligé d'inviter Max, même s'il est jamais là quand t'es là. D'ailleurs, c'est une de ses demandes de pas être là quand t'es là.
Ouais.
Il veut qu'est-ce pas, que j'ai fait? Il veut pas ça? Perdre le premier plan.
Ah, attends une minute.
Tu sais, il veut pas... Quoi?
C'est ça, Max va être là. Il va se faire payer un verre.
C'est ça! Quand c'est gratis. Mais oui, on se fera un moment, les quatre.
Mais hein, quelle bonne idée.
On te reparle la semaine prochaine. Merci d'être là avec nous autres. Toujours un plaisir de t'accueillir dans notre émission. 9h45, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. C'est par messagerie texte. Marceau le